Mais d'abord, Monsieur Lavoie.
Monsieur Drainville, vous allez bien?
Ben oui, écoute, j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai vu ça passer, la nouvelle concernant...
C'est une grosse nouvelle,
hein, Huawei, là, résume-nous ça, là.
C'est une très grosse nouvelle. Un accord qui va être entériné aujourd'hui par un tribunal de New York ou de la région de New York entre les autorités américaines et la directrice financière du géant des télécommunications Huawei, ce qui va mettre fin à 3 ans de bataille judiciaire et de tensions entre Pékin, Washington et Ottawa. Cet accord permettra à Meng Wanzhou de rentrer en Chine après près de 3 ans de séjour forcé au Canada. C'est le Wall Street Journal qui rapportait ça ce matin. L'accord entre le ministère de la Justice et Huawei doit être annoncé maintenant. Ils sont devant le tribunal au moment où l'on se parle. Les services du tribunal ont fait parvenir à la mi-journée une courte lettre du ministère de la Justice confirmant une audience devant le tribunal en vue d'un règlement des poursuites dans le dossier États-Unis contre Meng Wanzhou, sans plus de détails. Okay.
Mais là, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait de quoi cette entente est faite?
Oui, attends une seconde que je te le rapporte. Elle a plaidé coupable à des accusations réduites, des accusations de fraude. Elle va payer une amende, mais dans l'entente qui est intervenue et qui a impliqué le Canada, c'est intéressant, on va voir plus de détails. C'est en train de se passer, là. Ça évolue au moment où l'on se parle. Oui. Je crois comprendre, en ayant lu un peu partout sur l'Internet ce qui est disponible, que l'accord implique le Canada dans la mesure où les deux, l'ancien diplomate et l'autre homme d'affaires, Michael Spavor et Michael Kovrig, eux autres vont être libérés. Ça ferait partie de l'entente. Et là, elle pourrait quitter Vancouver aujourd'hui même pour la Chine. Et on s'attendrait à ce que les deux Canadiens soient libérés. C'est dur à dire, là, mais j'ai vu des endroits où ils disent d'ici 24 heures.
Wow!
C'est la fin d'une énorme saga, là.
Ah, ben là, les deux Michael qui sont libérés, mais zinc, c'est gros, là.
Mais non seulement ils sont libérés, puis ça, c'est important, mais la crise entre le Canada et la Chine a eu des conséquences désastreuses pour nos producteurs agricoles, désastreuses pour des tas de domaines où on faisait exprès, on mettait des bâtons dans les roues, à commencer par l'arrestation de ces deux Canadiens-là, qui étaient littéralement tenus en otage. Mais on se l'est souvent dit, Bernard, parce qu'on en a souvent parlé de cette affaire-là, tôt ou tard, il faut que ça se règle. Puis ça va se régler par quelque chose qui ressemble à l'époque de la guerre froide, on vivait ça à l'époque de la guerre froide, à des échanges d'individus, OK? T'en as attrapé 3 de ton côté, j'en ai 2. Il y avait un pont à Berlin, d'ailleurs, où ça se faisait, là. Voici, à la moitié du pont, je laisse mon...
Checkpoint Charlie.
Checkpoint Charlie, en effet. Alors, c'est donc la fin d'une véritable crise diplomatique qui a vraiment nuit aux intérêts canadiens. Et j'ai jamais compris pourquoi le gouvernement avait continué sur cette voie. Évidemment qu'au moment où Trump, parce que c'était très politique cette affaire-là, au moment où Trump a fait les démarches ou a demandé à ce que les démarches soient faites pour l'arrêter au Canada puis ensuite obtenir son extradition, l'accord qui a remplacé l'ALENA n'était pas encore paraffé. On était à quelques semaines, peut-être 2 mois du moment où tout ça était signé. Alors le Canada voulait pas poser de geste avec un président qui est aussi colérique que Trump. Le Canada voulait pas poser de geste qui allait indisposer la Chine, les États-Unis. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, l'a mis en résidence surveillée, apporte un bracelet, on l'a vu souvent, les photos, apporte un bracelet autour de la cheville, et le Canada a accepté de jouer le jeu. Mais une fois l'accord signé, l'accord l'ALENA, puis c'est tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay, une fois que cet accord-là est signé, ils auraient bien pu entreprendre des négociations de ce type, ou encore plus, ils auraient pu dire non, l'extradition, parce que le ministre jouit de la capacité et du pouvoir de faire ça dans le cas de l'extradition. Dire non, on marche plus dans l'extradition. Mais c'est fini.
On s'entend,
là.
Luc, c'est le résultat de l'arrivée de Biden au pouvoir. Là. Biden, visiblement, dans ce cas-ci, a dit « ça a assez duré ». Probablement qu'il fait son propre calcul de son côté, là, dans ses relations avec la Chine. Là, il a jugé, l'administration Biden a décidé qu'il valait mieux la laisser partir. Et puis, ben, à travers ça, qu'est-ce que tu veux, on est pris là-dedans, nous autres. C'est nous qui l'avons arrêté à la demande des États-Unis. Et puis là, on a 2 de nos diplomates. Bon.
Enfin, pas des
2 Canadiens, je ne sais pas s'ils sont diplomates, mais en tout cas 2 Canadiens.
Il y en a un qui l'a déjà été.
Tu sais, bon, deux Canadiens qui ont été arrêtés, qui ont été jugés et qui ont été condamnés récemment.
À 11 ans d'emprisonnement, oui.
Bon, fait qu'on se trouve... Moi, j'y vois là-dedans une approche pragmatique. Mais oui. Honnêtement, Luc, les dessous du calcul des uns et des autres, on va peut-être en connaître davantage plus tard. Là.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bernard, je vous rapporte ça au moment où ça se déroule. Là. Elle est au tribunal. Je pense qu'elle est par visioconférence. Elle est à Vancouver par visioconférence avec le tribunal de Brooklyn. Mmh. Et là, il va y avoir lecture de cette entente hors cours. Et puis, il va y avoir un juge qui va bénir, si on veut, l'accord qui est intervenu. Puis, ça va être la fin. Ça va être la fin. Maintenant, le défi, c'est de rebâtir nos relations avec la Chine. Faut pas non plus être naïf. On se met pas à quatre pattes devant la Chine. On
les
admire
pas. Dire.
Ben non, il n'y a pas question de ça. C'est justement le contraire que je veux dire. On veut rebâtir des relations commerciales sur une base solide, puis enlever ces affaires-là du décor, puis arrêter de se faire utiliser comme un yo-yo par notre grand voisin américain. Faut plus jamais tomber là-dedans.
Ouais, rebâtir sur quelle base, Luc, là? Honnêtement, là, il y a des grosses questions qui se posent.
Ben, il y a des énormes questions.
Par exemple, est-ce qu'on permet à la technologie de Huawei de se déployer sur le territoire canadien? Et cette décision-là, elle a toujours pas été prise, là.
Ouais, elle a toujours pas été prise, mais je pense qu'elle va suivre, ça sera pas très long. Parce que là, le Canada ne la prenait pas. Parce qu'il voulait pas détériorer sa cause. Il voulait pas nuire aux deux personnes emprisonnées. Et si et ça. Alors, moi, je pense que ça va se régler.
Mais ça va se régler comment? Parce que là, je te le rappelle, tu le sais déjà, mais la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Grande-Bretagne ont refusé le déploiement de la technologie Huawei à cause d'inquiétudes liées à l'espionnage, à l'utilisation par les autorités chinoises, par l'État chinois des données qu'ils pourraient collecter à travers ce réseau-là. Les Américains, est-ce qu'ils ont pris la décision sous Trump de ne pas déployer Huawei, hein, c'est ça?
Oui, puis l'Australie aussi, comme par hasard. Puis il y a beaucoup de pays, là, une trentaine de pays qui ne veulent pas de cette technologie-là pour toutes les raisons que tu as expliquées.
Ben alors, est-ce que le Canada peut déployer la technologie Huawei alors que les États-Unis disent non?
Moi, je pense que non. Tout ce que je te dis, c'est qu'ils ne voulaient pas l'annoncer formellement. À l'heure actuelle, il n'y a pas de dossier sur la table. Les grands câbleaux distributeurs, les grandes compagnies de télécommunications, pour des raisons pratico-pratiques, ont cessé d'acheter de l'équipement Huawei. Alors, ça va devenir une décision qui va venir confirmer un état de fait. Essentiellement, c'est ça que c'est. Parce qu'il faut savoir que Huawei est considéré par les services de renseignement, et ce, depuis très longtemps, comme une entreprise qui ne sert à rien d'autre qu'étendre la capacité de collecter des informations sur ses adversaires du monde entier. Alors Huawei, qui installe des équipements, de télécommunications, c'est l'infrastructure, c'est ça que je voulais dire.
Qui vend du matériel, oui.
Alors eux autres, Huawei, c'est une compagnie qui n'existait pas il y a 20 ans, puis tout à coup elle est plus grosse que toutes les autres compagnies. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait? Comment ils faisaient pour arriver à ça? Ben, ils allaient voir les nouveaux fournisseurs, puis ils leur disaient, écoute, combien que ça te coûte chez Motorola ou combien que ça te coûte chez Ericsson? OK, moi, je vais te donner ça à moitié du prix. Puis il n'y avait pas de doute, l'équipement fonctionnait merveilleusement bien. Alors, il y en a qui l'ont acheté. Il y en a en Europe qui l'utilisent, mais la Grande-Bretagne l'a banni. L'Australie, si on parle justement de cette nouvelle configuration diplomatique... et le Canada, à mon avis, va l'exclure. Il n'y a pas d'autre raison de ne pas le faire. D'autant plus que c'est facile, on nuit à personne au Canada.
D'accord. Juste avant de se laisser, parle-nous un petit peu de ce qui se passe en Alberta, parce que le chiffre que j'ai vu ce matin m'a renversé.
Ben, le nombre moyen de cas depuis une semaine, c'est 1600 par jour. C'est comme si nous autres au Québec, on aurait 3200 par jour. C'est incroyable.
Non, mais la presque moitié de toutes les personnes infectées.
Essentiellement, la moitié de tous les gens infectés au Canada sont en Alberta. C'est quelque chose, hein. Le nombre d'hospitalisations a dépassé 1000. Là, vraiment, ça craque de partout. Il y a des gens qui commencent à essayer de trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui dit, l'équivalent de M. Arruda, le docteur Vernayou, a dit c'est devenu tellement grave que la seule chose qui peut nous aider dans la gestion de ça, c'est quand un des patients aux soins intensifs meurt. Quand tu arrives au point... Ben oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors, elle dit...
Ça fait de la place.
Ouais, ben ça fait de la place, il y a un lit qui se libère. C'est comme, elle dit pas ça en s'en réjouissant, là, Bernard, c'est il y en a plus de place. Alors, quand il y en a un qui meurt, il y a une nouvelle place. Elle disait ça pour choquer, mais c'est certainement vrai, je veux dire. Il y a plus de place.
Ça, c'est le delta, là. C'est le variant
delta.
Là.
C'est le delta presque à 100%, ou essentiellement à 100%.
Et c'est 100%, j'ai vu ça aussi, c'est 100%, 100% de toutes les personnes aux soins intensifs qui sont toutes des personnes non vaccinées.
Toutes des personnes non vaccinées. C'est vraiment, là, vraiment, ça en dit beaucoup de cette affaire-là. Je te dis, en Alberta, oublie pas qu'ils ont fait appel au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a accepté de déployer l'armée, comme ils avaient fait au Québec et en Ontario. Ils vont aussi déployer des infirmières de la Croix-Rouge. Le premier ministre Kenney, qui est en fin de carrière, on le sent, a lancé un appel à savoir s'il n'y avait pas d'autres juridictions canadiennes qui pourraient leur prêter des infirmières ou du personnel de santé. C'est la crise la plus choquante dans cela depuis très longtemps. Là. C'est vraiment très sérieux.
Je vais te dire, Kenny, le premier ministre, là, il n'est pas sorti du bois. Luc, je te souhaite un très beau week-end.
À toi aussi, Bernard, et à tous nos auditeurs.
Prends soin. Bye. Prends soin de toi, absolument, absolument. Allez. Alors, on s'en va à la pause. Au retour, là, je vous donne des petites nouvelles de cette histoire qui a absolument passionné les États-Unis, l'histoire de Gabby Petito et de son petit ami. Elle est malheureusement décédée. Lui, on le cherche, et puis là, on commence à se rapprocher de lui, là. Puis il y a des comptes à rendre, puis il va devoir répondre à certaines questions. Valérie Beaudoin, qui suit l'actualité américaine, comme vous le savez, là, va venir nous faire un petit topo là.